Chapitre 22. La maladie d'écrire. Parmi tous les lecteurs qui officièrent dans les fabriques de tabac, les plus appréciés furent ceux qui mettaient le ton, interprétant les textes comme de vrais acteurs sur une scène. Certains poussaient la ferveur jusqu'à changer de voix selon les personnages, d'autres s'y refusaient, par incapacité ou par principe. Mais tous avaient à cœur d'émouvoir leurs auditeurs, de les emmener aussi loin que possible dans l'empathie avec les protagonistes du roman. À l'avènement du microphone, les plus habiles se firent un devoir d'enrichir la lecture par toutes sortes de bruitages dramatiques, avec force coups de tonnerre et crépitements d'incendie. Il n'était pas rare de voir un atelier en pleurs continuer à travailler machinalement, tandis que le lecteur, gorge serrée par les sanglots, cherchait à reprendre le contrôle de sa voix. La plupart d'entre eux n'hésitaient pas à modifier l'histoire pour qu'elle produise cet effet. Surtout au moment de l'épilogue, tant les auteurs s'acharnaient à faire mourir leurs créatures dans les tourments ou à les rendre heureuses sans les fusions et les transports nécessaires. Alors, c'était le minimum, on rajoutait des embrassades, un baiser fougueux au soleil couchant, une promesse d'éternité, et dans les cas tragiques, Julien Sorel s'en sortait, acquitté par ses juges. Madame Bovary rendait paisiblement son dernier soupir ou même échappait in extremis à l'empoisonnement grâce aux bons soins de son mari. À force de lire, on finissait par attraper la maladie d'écrire. Le cas le plus extrême avait été celui de Maria Caridad González Martínez, une lectrice à qui Dulcie vouait une admiration sans bornes. Improvisant à partir des canevas qu'elle préparait la veille, parfois même à partir de simples notes, cette femme avait composé oralement 22 romans devant les yeux de son public. Obscurité et destin, cœur de pierre, fabrique des songes, autant d'histoires dont elle corrigeait la trame au fur et à mesure, comblant ou déjouant à loisir les attentes de ceux qui l'écoutaient. Que ces livres aient appartenu ou non à la bonne littérature n'était pas le problème. Ils avaient réussi à captiver son auditoire mille fois mieux que les ouvrages d'écrivains reconnus, parce que les mots, les expressions, les tournures qu'elle employait étaient les siens, qu'ils venaient s'adapter parfaitement à ses lèvres, roulaient dans sa bouche comme des bonbons apprivoisés, qu'elle savait comment les moduler ou s'arrêter, respirer, accélérer pour faire rire ou pleurer les gens, parce que c'était sa musique, qu'elle en faisait sonner d'instinct toutes les nuances. Arnaud n'a pas besoin de consulter sa montre pour savoir qu'il lui faut prendre soin de son épouse. Il pose sa paire de ciseaux sur la pile de vieux journaux dont il découpe les rubriques soir après soir, fait jouer les articulations de ses doigts et retire avec précaution le drap qui recouvre Dulcie. Splendeur de ses formes nues, malgré la couche culotte de fibres synthétiques. Une pin-up noire moulée dans sa gaine de satin échancré, la plastique d'une Playmate de Duke Magazine dans les années 60. Arnaud croise les jambes de la jeune femme, ramène ses bras sous la poitrine, accentuant sa posture de Vénus sortie des eaux. Une main au niveau de l'épaule, l'autre glissée sous le genou relevé, puis plaquée sur la hanche, il bascule son corps sur le côté. Sans se fier à l'indicateur d'humidité, il glisse un doigt sous l'élastique de la couche, s'assure qu'il n'est pas nécessaire de la changer. Courbé au-dessus d'elle, il vérifie ensuite l'état de sa peau, anxieux d'y découvrir la moindre lésion qui pourrait signaler un début d'escarre, effleure des doigts et de la paume les zones à risque pour les oxygéner, talons, sacrum, saillie des trochantères et du bassin. Cela fait, il la recouvre, murmure un petit mot d'amour à son oreille, l'embrasse avec tendresse sur la tempe. Il répète ses gestes toutes les 2 heures, y compris la nuit, fractionnant son propre sommeil en courtes périodes réparties au long de la journée. Solitaire aux aguets, il se tient prêt à intervenir à n'importe quel instant pour régler au mieux la marche du bateau. La nudité de Dulcie le bouleverse à chaque fois, par le ravissement tranquille qui s'en dégage, mais aussi parce qu'il sait bien qu'elle préférerait être morte plutôt que d'avoir à subir, même venant de lui, cette surveillance impudique. Il se souvient de son mouvement de colère à la lecture du roman de Pierre Louis, « La femme et le pantin », lorsqu'elle était tombée sur la description suggestive et méprisante des cigarières de Séville. un harem de 4 800 femmes, si étouffant dans la chaleur de l'été qu'on leur donnait charitablement la permission de travailler à moitié nu. On voyait bien que ce type-là n'était jamais entré dans une manufacture. Il aurait vu que toutes les ouvrières s'y habillaient décemment, même au plus fort de la chaleur, que pas une d'entre elles n'aurait dérogé à cette règle sous peine de passer aussitôt pour une traînée. Comme s'il faisait plus chaud à Séville qu'à Saint-Domingue ou à Cuba. Non, mais écoute, écoute-moi ça. Les plus vêtues n'avaient que leur chemise autour du corps. C'étaient les prudes. Presque toutes travaillaient le torse nu, avec un simple jupon de toile desserré de la ceinture et parfois repoussé jusqu'au milieu des cuisses. Le spectacle était mélangé. C'était la femme à tous les âges, enfant et vieille, jeune ou moins jeune, obèse, grasse, maigre ou décharnée. Quelques-unes étaient enceintes, d'autres allaitaient leurs petits, d'autres n'étaient même pas nubiles. Il y avait de tout dans cette foule nue, excepté des vierges probablement. Il y avait même de jolies filles. Tu te rends compte? Mais quel sale con! De tout, excepté des vierges. Ce n'est pas possible de laisser dire des sottises pareilles. Elle en pleurait de rage, blessée comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle, et à travers elle, d'une offense à toutes ses camarades de travail, à toute la corporation des cigarières. Tu savais qu'il y avait une prison à la fabrique de Séville? Des cellules où on enfermait les femmes suspectées d'avoir dérobé du tabac le temps d'aller fouiller chez elles, dans leur taudis, pour essayer de récupérer les cigares volés. Pas de police, pas de plainte, pas de jugement. Si par malheur on trouvait quelque chose, que tu l'aies carotté ou qu'un petit chef l'y ait apporté à cause de ton joli minois, tu pouvais en prendre pour 4 ou 5 ans. Là, à l'intérieur même des ateliers, sans recours, sans espoir, pute gratuite à la disposition de tes gardiens. Tu crois qu'elles avaient envie de montrer leur nichon? Dis, tu crois ça, toi? Passe encore pour Mérimée qu'elle disculpait du bout des lèvres, mais là, rien à faire, la pilule lui restait en travers. Pierre-Louis, un menteur, doublé d'un obsédé sexuel, un dégueulasse. Arnaud reprend son travail, finissant de compiler les faits divers destinés à la matinale du lendemain. Il voudrait avoir le talent d'un Félix Fénéon pour arriver à la concision de ses nouvelles en 3 lignes. Celui de Sei Shonagon pour l'élégance faussement badine des notes de chevet. Il imagine la tête des ouvriers lorsqu'en lieu et place des gros titres de la tribune, il lira les anciennes dépêches qu'il chapeaute, sourire aux lèvres, à leur intention. Dernier télégramme de la nuit. Choses qui n'offrent rien d'extraordinaire au premier regard, mais prennent une importance exagérée quand on les attribue à un philosophe chinois. Mystère du cadavre disparu. Quand un arbre s'abat dans la forêt sans que personne ne soit là pour l'entendre, plastronne le meurtrier présumé, qui peut dire s'il a réellement fait du bruit? Chose qui fâche les vrais amateurs de charcuterie. Un Britannique de 30 ans met du jambon dans les chaussures d'une mosquée et décore les barrières avec des côtes de porc. Chose qui éveille un doute raisonnable chez celui qui les entend. Enfoncez la porte, on est morts tous les deux! Hurlait l'unijambiste affaissé sur le cadavre de sa femme. Chose qui sente bon l'air marin. À Arcachon, avenue des Goélands, le septuagénaire kleptomane ouvrait les voitures avec un couteau à huître. Chose délicieusement romanesque. Il travaillait au rayon viande, elle tenait celui des poissons. Qui a bien pu tirer dans le dos du boucher de l'Orne? Chose dont on se persuade qu'elle aurait pu inspirer Max Ernst. Avant de mourir, la femme sans tête était allée chez le coiffeur. Chose qui donne des picotements dans les yeux. La justice iranienne condamne un homme à être aveuglé à l'acide. Il avait jugé bon d'en faire autant sur celle qui refusait de devenir sa femme. Chose qui semble légitimer la force brute. Brutalement réveillé à coups de bâton, Michel-Ange Martin fut si violemment frappé qu'il reprit connaissance. Chose qui ne plaide pas en faveur du mariage. Accident mortel. Sortie de route, un quart de noce épouse la forme d'un poteau. Chose dont on vérifie avec effroi qu'elle se conforme à un rêve antérieur. Broadway, incendie du musée Barnum. Un mutilé de guerre emporté par une baleine blanche.